Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences. Et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers.
Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Dans un article publié dans Nature, une équipe de chercheurs présente un modèle unificateur qui décrit les mécanismes d'accélération des particules chargées qui forment les rayons cosmiques. Ce modèle relie l'énergie maximale des particules accélérées à l'échelle spatiale du choc supersonique dans le milieu. Cette découverte, réalisée à partir des données de la sonde Juno de la NASA, qui est en orbite autour de Jupiter, remet en question la théorie conventionnelle et pourrait éclairer l'origine encore énigmatique des rayons cosmiques. L'univers est rempli de particules chargées qui se propagent à une vitesse proche de celle de la lumière et seraient accélérées par des chocs supersoniques colossaux. Ces chocs se produisent à des échelles allant des planètes jusqu'aux supernovas. Ce qu'on appelle un choc supersonique, c'est une transition dans un milieu compressible où des grandeurs telles que la pression, la densité, la température et la vitesse changent brusquement. Les chocs se forment lorsqu'une perturbation se propage plus vite que la vitesse de son local. Par exemple, lorsqu'un gaz supersonique rencontre un obstacle, ou l'inverse. À travers le choc, l'énergie cinétique globale, qui quantifie le mouvement collectif du gaz, est convertie en énergie thermique, et dans certains cas, en rayonnement, si le refroidissement est efficace. Alors, lorsqu'un corps massif, comme une météorite, percute la surface de la Terre, la libération soudaine d'énergie engendre une onde de choc dans l'atmosphère. Pour un observateur se déplaçant avec l'onde de choc, le gaz en amont, qui est non perturbé, s'écoule vers le front de choc à une vitesse supersonique, tandis que le gaz en aval s'en éloigne à une vitesse subsonique. De part et d'autre de l'onde de choc, le gaz est comprimé et chauffé. Le gaz en aval est plus chaud, plus dense et à une pression plus élevée que le gaz en amont. L'atmosphère terrestre est suffisamment dense pour que les particules de gaz entrent fréquemment en collision. On peut donc souvent la décrire comme un fluide en utilisant les équations de l'hydrodynamique. Mais une grande partie de l'espace, elle, est remplie de matière à l'état ionisé et de faible densité, qu'on appelle un plasma. Et dans un tel environnement, les ondes de choc ne sont pas transmises par des collisions directes entre particules, mais par les champs électriques et magnétiques qui sont générés par le plasma lui-même. Ces ondes de choc sans collision sont considérées depuis longtemps comme des sites d'accélération efficaces des particules. Dans le système solaire, les collisions entre le vent solaire, c'est-à-dire le plasma en mouvement provenant du Soleil, et les champs magnétiques des planètes produisent des ondes de choc sans collision, donc, qu'on appelle des ondes de choc d'arc. Les observations in situ de l'accélération des particules dans ces conditions sont bien sûr complexes et étaient autrefois principalement limitées à la magnétosphère terrestre. Mais la situation a heureusement évolué, notamment grâce à la sonde Juno, qui étudie encore aujourd'hui la composition, l'atmosphère et la magnétosphère de Jupiter. Les travaux de Savas Raptis de l'université Johns Hopkins et de ses collègues apportent désormais des informations tout aussi importantes, mais cette fois donc sur la physique des plasmas autour de Jupiter. Les auteurs ont analysé des données recueillies par Juno dans la région en amont de l'onde de choc de Jupiter, en utilisant les instruments embarqués pour mesurer l'énergie des électrons provenant du vent solaire et de l'environnement de l'onde de choc. L'accélération des particules dans les chocs sans collision est généralement attribuée au processus d'accélération diffusive par choc, au cours duquel les particules chargées gagnent de l'énergie par réflexion répétée à travers le front de choc, en accélérant à chaque fois. Le mouvement des particules est dispersé par les fluctuations turbulentes du champ magnétique de part et d'autre du choc, ce qui leur permet d'y retourner à de nombreuses reprises, plutôt que de s'en échapper après un seul passage. Jusqu'à aujourd'hui, les preuves observationnelles directes permettant de déterminer où, dans un environnement de choc sans collision, l'accélération est la plus efficace, restaient limitées. En analysant les mesures de Juno, Raptis et ses collaborateurs montrent que les électrons peuvent être accélérés à des énergies d'au moins 1 mégaélectronvolt, 1 MeV, non pas par l'accélération diffusive par choc, mais par des perturbations transitoires du plasma de courte durée qui se produisent dans une région dynamique en amont du choc d'arc. Les transitoires de l'avant-choc sont générés par les interactions entre les particules réfléchies, les fluctuations du champ magnétique et le flux de plasma incident. Ils peuvent chauffer, diffuser et accélérer les particules avant qu'elles n'atteignent le front de choc. Les astrophysiciens montrent que l'accélération maximale des électrons est déterminée par l'échelle spatiale de la zone de pré-choc, qui augmente avec la taille de l'onde de choc. Les auteurs suggèrent que ce modèle peut tout à fait être appliqué à d'autres systèmes astronomiques. Et oui, parce que l'analyse des astrophysiciens indique qu'à l'échelle planétaire, là où ils ont fait leurs mesures, la taille de la zone de choc en amont est corrélée à celle de l'onde de choc. Or, la taille de la région d'accélération des particules permet de calculer leur énergie maximale grâce à une relation standard qu'on appelle le critère de Hilas. Il y a donc une relation étroite entre la taille de la zone de choc et l'énergie des particules accélérées. Les chercheurs aboutissent à la conclusion majeure qu'il est possible de prédire l'accélération maximale que peuvent atteindre les particules dans ces systèmes planétaires en se basant uniquement sur la dimension du système de choc. Raptis et ses collègues franchissent ensuite une étape audacieuse en affirmant que ce modèle s'applique à d'autres systèmes astrophysiques où se produisent aussi des chocs sans collision, notamment les jets qui sont émis par de jeunes étoiles, les proto-étoiles, ou bien les restes de supernovas. Le cadre proposé permettrait d'unifier la physique de l'accélération par choc à des échelles différentes de près de 10 ordres de grandeur. C'est énorme. En combinant les observations sur Jupiter avec des données historiques provenant d'autres environnements planétaires, ils parviennent en effet à extrapoler cette relation d'échelle à des objets astrophysiques, notamment le jet protostellaire qui s'appelle HH211 et aussi les restes de supernova SN1987A, la fameuse, et SN1006. L'application de l'espace des paramètres connus pour ces ondes de choc non relativistes montre que ces processus fondamentaux peuvent accélérer des particules jusqu'à des énergies de l'ordre de la dizaine de téraélectronvolts, une gamme d'énergie qui est susceptible de contribuer à la coupure observée des électrons dans le spectre des rayons cosmiques. Et plus important encore, les énergies maximales prédites pour SN1006 sont cohérentes avec les observations, ce qui confirme directement leur modèle. Alors, fort de ce constat, une étape cruciale, bien sûr, consistera ensuite à évaluer le modèle présenté sur d'autres objets astrophysiques. Par exemple, différents restes de supernova, des chocs de nova aussi, des Jupiters ultra chauds ou même des jets de sursaut gamma. Et aussi à déterminer la contribution relative des divers accélérateurs astrophysiques au flux de rayons cosmiques. Ces accélérateurs incluent non seulement les chocs non relativistes sans collision, comme ceux étudiés ici, mais aussi d'autres phénomènes tels que les ceintures de radiation, les amas d'étoiles massifs, les blazars, les vents ultra-rapides des noyaux galactiques actifs et les systèmes d'étoiles binaires. Ces travaux nécessiteront donc des simulations et des observations approfondies menées de manière interdisciplinaire. Alors bien que ça représente un défi, la taille des ondes de choc, l'intensité du champ magnétique et les propriétés du milieu entourant certains jets protostellaires et restes de supernova peuvent être estimées à partir d'observations directes, ce qui permettrait de tester et d'affiner le modèle proposé. Une planète, une jeune étoile ou un résidu de supernova peuvent sembler n'avoir que peu de points communs. Hein. Ce sont des systèmes très différents, présentant une vaste gamme de conditions physiques. Mais l'hypothèse fascinante de Raptis et de ses collègues, selon laquelle des structures de plasma transitoire en amont des chocs pourraient régir l'accélération des particules dans ces systèmes, devrait inciter à approfondir l'étude des environnements astrophysiques dans lesquels les particules sont accélérées des échelles planétaires aux échelles extragalactiques. L'article de Savas Raptis et ses collaborateurs est paru dans Nature le 3 juin 2026. Il porte le titre « Une accélération d'électrons relativiste dans le choc de Jupiter et au-delà ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut !